Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous attendons vos appels en direct. Composez le plus 1 202 205 26 33. Je reprends, plus 1, 202, 205, 26, 33. Joselle Morissin est juste derrière la vitre pour prendre vos appels. Et puis, ils sont en ligne, nos intervenants habituels. J'ai nommé Jules Valentin Ngwe. C'est à Libreville au Gabon. Bonsoir, Jules.
Bonsoir à tous.
Et puis, direction Boyukon au Bénin pour retrouver Élisée Oumpatine. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis sportifs de Sporama.
Et puis on a également avec nous Amine Birouko au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Merci à vous de votre présence. D'ici là que Thierry Kamboundié Amdinsi nous retrouve. Supercoupe CAF pour commencer. Les Marocains du Wydad de Casablanca ont remporté la première Supercoupe d'Afrique de leur histoire en s'imposant face aux Congolais du tout-puissant Mazembe. 1-0 samedi, le buteur a pour nom Amine Tigazaoui. L'ancien milieu de Nancy a transformé un coup franc en pleine lucarne à la 83e minute devant une marée rouge dans un stade Mohamed V de Casablanca à l'ambiance exceptionnelle. On écoute l'unique buteur de la soirée, Amine Tigazaoui.
Ça fait plaisir, surtout que le stade était plein. Et donc c'est comme un atout en plus d'avoir marqué le but de la victoire et voir tout le public comme ça, franchement c'est magnifique. Après c'est une performance collective, l'équipe était bien en place face à une bonne équipe du TP Mazembe. Puis voilà, maintenant on a gagné la coupe, maintenant on doit se reconcentrer sur le championnat parce qu'on a du retard.
Amine Tigazaoui au micro de son homonyme Amine Birouk. Et Amine Birouk qui a aussi recueilli les propos de l'emblématique Robert Kidiaba, actuel entraîneur des gardiens du TP Mazembe.
On a tout fait, je ne peux pas dire que ça n'a pas marché. On a essayé, l'équipe adverse était vraiment en forme. Ils ont attaqué dès le début du match jusqu'à la fin. Bon, j'ai l'impression parce qu'ils jouent chez eux et puis ils ont une public qui pousse aux joueurs d'aller jusqu'à remporter quoi, les trophées.
Robert Kidiaba, entraîneur des gardiens du TP Mazembe. Et donc, on vient de me signaler que Thierry et Amine Amdinsi sont dans cette émission. Alors, Amine, un sacre logique pour le vainqueur de la dernière Ligue des Champions.
Disons que la logique a été respectée dans la mesure où c'est le vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe qui a eu à passer plusieurs tests africains pendant toute la saison. Et puis, les règles de la CAF sont ce qu'elles sont. Le vainqueur de la Ligue des Champions reçoit le vainqueur de la Coupe de la CAF. Ça se joue sur un seul match. C'est un peu l'envers de ce règlement. L'année dernière, c'était déjà le cas pour le vainqueur de la Ligue des Champions, Mamelodi Sundowns. Et le fait de jouer à Casablanca devant un public qui est indéfectiblement attaché à l'équipe du Wydad, un public qui a été pour beaucoup déjà dans le sacre en Champions League, le fait aussi d'avoir été motivé pour disputer, pour gagner le seul titre qui manque un peu au palmarès du Wydad Casablanca, ça a été un coup de boost tout au long de la rencontre. L'équipe du TP Mazembe est venue pour jouer systématiquement le nul. Peut-être que l'objectif était de profiter d'une action rupture, d'un contre ou bien d'aller vers la fatidique séance des tirs au but après les 90 minutes du match. Mais en tout cas, le Wydad a poussé, le Wydad s'est créé quelques occasions en première mi-temps, il a été beaucoup plus entreprenant en seconde période, il a bénéficié d'un pénalty que Walid Karti a manqué, ou plutôt que Gbo, le gardien du TP Mazembe, a arrêté. Il y a eu aussi, 4 minutes plus tard, une deuxième sanction qui a été signalée par l'arbitre et qui a été rectifiée. C'est la première fois qu'on a recouru à l'arbitrage vidéo, donc ça a créé une certaine incompréhension. Ça aurait pu faire baisser la motivation des joueurs du Wydad de Casablanca, et pourtant, sur un coup franc, peut-être tendancieux, peut-être litigieux, en tout cas, sujet à contestation, Tirezoui a placé un superbe coup franc en pleine lucarne qui a permis au Wydad de faire pencher la balance en sa faveur. C'est le premier sacre du Wydad après 3 tentatives en supercoupe. Il y a eu un échec face à l'Africa Sport en 93. Il y a eu aussi l'échec face aux Zamalek en 2003. C'est aussi le premier succès de l'entraîneur tunisien Fawzi Banzarti face au TP Mazembe. Il a été habitué souvent à mordre la poussière face à cette formation qui n'a pas été, qui n'a été que l'ombre de l'équipe qui terrifie un peu l'Afrique du football et qui est venue peut-être pour spéculer, peut-être pour tenter un coup lors de cette finale. Mais en tout cas, sur l'ensemble de la rencontre, on ne peut pas dire que le Wydad n'a pas volé son titre.
Alors, Thierry, Amine l'évoquait tout à l'heure, le technicien tunisien du Wydad, Fawzi, Thierry n'est pas là, et donc Amdine est là. D'accord. Amdine, le technicien tunisien du Wydad, Fawzi Benzati, disait en conférence de presse d'avant-match, je cite, « J'ai affronté le TP Mazembe à 5 reprises et il n'est plus aussi fort qu'il ne l'était. Il n'a pas eu tort. »
Oui, il n'a pas eu tort. On sait que le tout puissant Mazembe n'est plus ce qu'il était. Si on regarde même à chaque saison, le tout puissant Mazembe démarre par la Ligue africaine des champions avant d'être éliminé et reversé au niveau de la Coupe de la CAF. Cela prouve que l'entraîneur a bien raison. Mais il faut également dire, Yacouba, que cette année, c'est une année marocaine, puisque le football marocain marche tout simplement sur de l'eau. On a vu comment le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde en éliminant une équipe comme la Côte d'Ivoire. On a également vu le charme. On a vu comment s'est comporté l'équipe nationale locale du Maroc, les Lions de l'Atlas locaux, comme on dit. Et on a vu le parcours remarquable du Wydad Athletic Club pour remporter cette Ligue africaine des champions. Et je pense que cette super coupe n'est rien d'autre que la série sur le gâteau, puisque le football marocain marche très fort ces temps-ci. Et je trouve ça dommage, puisque quand tu visites le Maroc, tu vois les infrastructures et tous les moyens que les Marocains mettent sur le football. Ce n'est que justice. Je pense que les autres doivent travailler pour essayer de faire comme le Wydad, comme le Maroc, parce qu'ils ont travaillé et ils méritent tous ces trophées qu'ils sont en train d'engranger, Yacouba.
Jules, cette fois a été la bonne pour l'assistance vidéo à l'arbitrage utilisée pour la première fois en Afrique lors de cette Super Coupe de la CAF. C'était en expérimentation pendant le CHAN. Ce type d'arbitrage va-t-il contribuer réellement à minimiser les erreurs d'arbitrage, bien sûr?
Oui, bien sûr, parce que ces erreurs sont souvent sur les rencontres. Et puis on aura également l'occasion d'éviter des recours, disons, à des décisions assez dangereuses comme prendre une rencontre pour un fait de match. Donc je crois que c'est vraiment très important. Et même si pendant cette rencontre de la finale de la Supercoupe, la décision est venue sur un coup franc quand même très généreux accordé à l'équipe du Wydad contre un TP Mazembe qui visiblement était venu pour défendre et attendre peut-être des tirs au but.
Alors, Thierry vient de nous joindre. Alors, Thierry, le technicien tunisien du Wydad, disait tout à l'heure que le TP Mazembe n'est plus aussi fort comme avant. Vous l'avez sans doute constaté aussi, hein?
Tout à fait. Hein. Et moi, le public démocratique du Congo qui a suivi la rencontre de ce week-end contre cette formation de Casablanca, Mazembe a perdu de sa superbe. La crise est passée par là, on peut le dire comme ça. Hein. Le club, rappelez-vous, depuis la saison dernière, a sensiblement réduit son budget. Certains joueurs cadres sont partis. Place à la jeunesse désormais. Les jeunes de l'académie du club sont en train de monter, de prendre des galons. Mais c'est un processus qui prendra du temps. Mazembe est dans une phase transitoire. C'est normal que l'équipe n'affiche plus l'ambition, les objectifs qu'il avait les années dernières. Raison pour laquelle d'ailleurs il s'est contenté la saison dernière comme la saison d'avant de la Coupe de la Confédération, alors qu'à chaque début de saison, l'objectif de Courbeau a toujours été la Champions League. Donc ça va venir, les dirigeants du club ont dit que c'est une phase qui va passer, mais on aimerait très vite bien évidemment retrouver un autre visage du tout-puissant Mazembe que celui qui nous a été proposé lors de cette Super Coupe d'Afrique.
Alors Élisée, les débuts de l'arbitrage vidéo en Serie A et en Bundesliga ont été marqués par des confusions, de longues interruptions du jeu. Faut-il s'attendre à des débuts beaucoup plus compliqués dans les stades africains?
Oui, Yacouba, il faut le dire, même à un moment donné, en France, on a dû mettre fin à l'arbitrage vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce serait un peu difficile. Mais ce qu'on a vu samedi dernier du côté de Casablanca, eh bien, c'est pour la première fois. Vous l'avez dit, lors du Chan, on voulait l'expérimenter. Ah, mais à un moment donné, eh bien, la Confédération l'a abandonné. Une fois, on l'a appliqué en super coup d'Afrique. Ça s'est bien passé. À un moment donné, l'arbitre a eu des doutes, mais il s'est rattrapé grâce à l'arbitrage vidéo. Maintenant, il faut essayer de l'expérimenter aussi dans les meilleurs championnats du continent, que ce soit en Afrique du Sud, en Tunisie, qui, selon le classement de la CAF, a le meilleur championnat africain, le premier championnat africain en matière de championnats nationaux, suivi l'Afrique du Sud, je l'ai dit tantôt, et puis l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Libye, même si la Libye n'a pas encore un championnat régulier, aussi la Côte d'Ivoire, qui voit son championnat passer régulièrement sur une station cryptée sur le continent. Donc, c'est dire qu'il faudra aussi l'expérimenter dans les meilleurs championnats afin de permettre aux arbitres d'avoir le maximum d'avoir l'expérience qu'il faut pour que dans quel genre de compétition, pourquoi pas en Coupe d'Afrique des Nations, même en Coupe du Monde, quand les arbitres africains vont quitter lors du prochain mondial du côté de la Russie, puis qu'ils puissent être trouver qu'il puisse apporter de plus à cet arbitrage vidéo.
Alors, on a Guillaume Valentin, un auditeur qui nous appelle de N'Djamena. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir.
Alors, vous souhaitez également réagir sur cette finale de la Supercoupe CAF. Allez-y.
Oui, moi, premièrement, je dirais d'abord félicitations à Tete Mazembe.
Félicitations, oui, date plutôt. Hein.
Oui, félicitations au Tete Mazembe pour leur victoire.
C'est le Wydad qui a remporté une... Valentin?
Oui, je le dis. Oui.
Valentin, c'est le Wydad qui a remporté la finale de la Supercoupe CAF et non pas le Tete Mazembe.
Ah, ok, la mérite, je le dis, félicitations. Et j'aimerais beaucoup plus participer par rapport à l'instauration...
L'arbitrage vidéo, allez-y.
L'arbitrage vidéo, c'est une bonne initiative qui aidera les arbitres et à éviter aussi des fausses arbitres. J'espère que quand en 2019, l'Afrique jouera avec l'assistance vidéo. Donc, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Et j'aimerais intervenir par rapport à la classique française.
On y reviendra. On reviendra justement, Valentin, on reviendra sur ce match PSG-OM. On va vous retrouver plus tard. Alors, Amine, l'actualité sportive au Maroc, c'est aussi ces 65 supporters arrêtés et placés en garde à vue après des actes de vandalisme perpétrés hier au stade de Marrakech lors du match perdu par le Kaoukab de Marrakech face au Raja de Casablanca. Où en est-on aujourd'hui avec cette affaire?
C'est une affaire assez grave, assez sérieuse. Ce n'est pas la première fois que ça se produit au Maroc. Ce qui est bizarre, c'est que ça se passe entre deux groupes de supporters de la même équipe. Ce qui est aussi grave, c'est comment sont rentrés ces supporters avec ces intentions, parce que ce qu'ils ont utilisé, ce sont les sièges du stade. Aujourd'hui, déjà, la Fédération marocaine de football a pris des décisions assez sévères, puisque le Raja de Casablanca, qui s'était déplacé à Marrakech, a été sanctionné. Il ne pourra pas, jouer avec ses supporters ou ses supporters ne seront pas présents pendant deux matchs, donc il y aura deux matchs à huis clos. Il y aura quand même une grosse amende pour le Raja de Casablanca et puis le club est aussi appelé à payer les sièges qui ont été cassés du stade de Marrakech. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une première dans le football marocain. Ça fait des années que ça se passe. Il y a deux ans, des actes suffisamment graves impliquant les supporters du même club qui avaient abouti à la mort de plusieurs supporters, c'était face à Al-Husseima. L'année dernière, à la même période, aussi des incidents qui ont mis les supporters de ce club une frange de supporters assez dure dans le collimateur des autorités judiciaires. Les groupes ultra ont été interdits par la loi marocaine, mais ils continuent quand même à être présents sur les réseaux sociaux, mais également d'une façon ostentatoire dans les stades. Il va falloir quand même que le législateur marocain soit plus sévère. Il va falloir aussi que les supporters prennent conscience que finalement ils sont en train de tuer le spectacle. Et si aujourd'hui le football marocain est en train de vivre une véritable embellie, il va pas falloir aussi qu'il soit déboulé, notamment dans le cadre du dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026, qui devra passer un premier examen le 15 et 16 mars prochain aux Bahamas, puis la grosse épreuve lors du congrès de la FIFA à partir du 13 juin prochain à Moscou.
Merci bien, Amine Birouk. On va prendre une pause dans Sporama et on revient tout de suite. Amine l'évoquait bien tout à l'heure, des comportements de supporters à bannir des stades, surtout en ce moment pour le Maroc, candidat à l'organisation du Mondial 2026. Et le Maroc est dans une phase de séduction, justement, présent au Maroc pour la finale de la Supercoupe CAF. Le président Ahmad Ahmad en a profité pour interpeller la presse sur son rôle dans cette candidature marocaine. On l'écoute.
Si vous nous dites, c'est à vous aussi de travailler, c'est un combat de communication. Ne croyez pas que c'est seulement nous, au niveau de l'administration du football, qui doivent travailler à fond. Tout dépend aussi de vous, de la communication. Ça doit être aussi une défaite de la communication africaine, marocaine, par rapport à la communication des pays occidentaux, des pays et des États-Unis. Donc, mettez-vous aussi dans les rangs.
Ahmad Ahmad, au micro d'Amine Birouk. On en a parlé très brièvement la semaine passée, nous revenons là-dessus cette semaine. Le Raoum Chérifien a présenté sa candidature à l'UEFA. Amine, le bid United 2026, composé des États-Unis, du Mexique et du Canada, a présenté sa candidature au Mondial 2026. Lors d'une réunion de la CONCACAF, cette situation avait offusqué le Maroc, empêché par la FIFA de faire pareil lors du dernier congrès de la CAF. Gianni Infantino, président de la FIFA, s'est-il rattrapé?
Disons qu'il s'est rattrapé de justesse. Il était présent lors du congrès exécutif de la FIFA en Mauritanie la semaine dernière. Et lorsque un groupement de journalistes africains lui avait posé la question, pourquoi avait-il interdit au Maroc de présenter sa candidature lors du congrès de la CAF, je dirais l'avant-veille de la finale, et pourquoi il a permis aux Américains d'être présents, et non pas à la CONCACAF, mais à la COSAFA, c'est-à-dire c'est quand même 15 voix qui comptent en Afrique, il avait juste estimé que le Maroc n'avait pas fait une demande formelle dans ce sens, ou la CAF n'avait pas fait une demande formelle dans ce sens, alors que la candidature, ou la triple candidature États-Unis, Canada et Mexique avait soumis, je dirais, une requête à la FIFA pour présenter un dossier que le lobbying n'était nullement interdit, même si les conditions sont plus drastiques en termes d'éthique depuis l'attribution de la Coupe du Monde 2018 et 2022. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui la candidature du Maroc est présente à Bratislava lors du congrès de l'UEFA. C'est quand même 55 votes qui comptent. C'est la confédération qui possède le plus de voix avant l'Afrique. Et bien évidemment, le Maroc compte présenter ses atouts. Des atouts qu'a mis en exergue Ahmed Ahmed de samedi en disant que la candidature du Maroc était une candidature basée sur la sécurité, sur l'écologie et sur l'humanisme. Trois valeurs qu'il va falloir prendre en compte, d'autant plus que ce que vivent les États-Unis, notamment en termes de régulation ou d'interdiction d'accès de certains concitoyens de pays, placés dans une liste rouge ou une liste noire, ne plaide pas pour l'universalisme du football, l'universalisme de la candidature américaine. Il va falloir quand même jouer très serré, dans la mesure où il y a un bloc anglo-saxon qui va certainement pencher en faveur de la candidature américaine. Il va falloir aussi ne pas oublier qu'il y aura un grand oral en ce qui concerne la Confédération asiatique de football qui compte aussi une quarantaine de pays qui comptent. Et puis, ne pas oublier qu'au Bahamas, il y aura un premier examen, un examen blanc où on pourrait peut-être rejeter une des candidatures. Donc, ce sera au Royaume chérifien d'être persuasif, d'être percutant, d'être offensif pour pouvoir permettre à la jeunesse africaine de vivre une deuxième Coupe du Monde après celle qui avait été merveilleusement organisée par l'Afrique du Sud en 2010.
Alors, Jules, Ahmad Ahmad, président de la CAF, évoque le rôle de la presse africaine dans ce soutien apporté à la candidature marocaine. La presse peut-elle peser dans la balance?
Oui, bien sûr. La presse doit améliorer l'image du pays candidat et en même temps montrer que deux grands progrès ont été réalisés depuis les multiples candidatures que le Maroc a eu à présenter. Mais la presse ne suffira sûrement pas. Parce qu'il faut se dire que lorsqu'on est face à des poids lourds à de telles occasions, le plus souvent, la FIFA a une très forte pression. Ça a été le cas, par exemple, pour la Coupe du Monde de 2006, où l'Allemagne avait pesé de tout son poids face à la candidature sud-africaine et la FIFA, qui était pourtant favorable à l'Afrique du Sud, avait dû décaler l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud d'une édition. Donc la bagarre sera très très difficile et ma foi, on espère que l'Afrique tirera son épingle du jeu.
Alors, Amdine, la semaine dernière, l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, a apporté son soutien à la candidature marocaine sur son compte Twitter, disant que c'est l'heure pour l'Afrique. Reste à savoir si l'ancien patron de la FIFA a encore de l'influence.
Oui, il a encore de l'influence, mais c'est comme on dirait médecin après la mort, parce que lorsqu'il était le tout-puissant président de la FIFA, il n'avait rien fait. Au contraire, le Maroc a déposé sa candidature à plusieurs reprises, mais rejeté. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Concernant la déclaration d'Amad par rapport à la presse, je pense que la presse ne peut faire que jouer son rôle, hein, relayer des informations, essayer de voir les atouts du Maroc et de les mettre en exergue. Mais à part ça, la presse ne peut pas faire grand-chose. Ce sont les présidents des fédérations africaines qui doivent se battre, essayer de convaincre leurs homologues des autres pays qui ne sont pas des continents que l'Afrique a son rôle à jouer dans le football mondial, et l'Afrique doit organiser une nouvelle fois une Coupe du Monde. Je pense que le débat doit se trouver à ce niveau, mais quant à supplier aux journalistes de faire de la com, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec Amad, mais je sais aussi que les dirigeants du football africain peuvent mener le combat pour permettre au Maroc d'organiser pour la deuxième fois de l'histoire, permettre à l'Afrique d'organiser une Coupe du Monde pour la deuxième fois de l'histoire, Yacouba.
Merci bien, Amdine. On va marquer encore une seconde pause et on revient. En Europe, et notamment en France, le week-end a été marqué par ce classico PSG-OM qui a laissé des traces surtout sur Paris. Malgré sa victoire 3-0, Neymar est sorti sur civière, blessé à la cheville et laisse craindre un forfait contre le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le match aller, on le rappelle, a été remporté par les Madrilènes en 3-1 à Santiago Bernabéu. Alors, Élisée, la saison du PSG en Ligue des Champions va-t-elle basculer suite à cette blessure du Brésilien?
Oui et non. Oui, en Ligue des Champions, s'il n'arrivait pas à prendre place, hein, à être titulaire contre le Real Madrid pour le match retour de cette Ligue des Champions, mais ça pourra changer les données. C'est vrai que Neymar a apporté un de plus, hein, au jeu du Paris Saint-Germain, même si d'autres pensent que bon, il est un peu individualiste. Il faut dire que sa présence sur le terrain a fait progresser énormément l'attaque du club parisien, qui, n'oublions pas, c'est la meilleure attaque de la phase de poule de la Ligue des Champions. Maintenant, non, dans le championnat français, on sait que même sans Neymar, le PSG domine sans partage, hein, la Ligue 1. Donc, attendez de voir s'il sera rétabli à temps, hein, pour pouvoir prendre place face au Real Madrid, puisque ce sera un match décisif, j'allais dire, pour la suite de l'aventure du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Alors, Jules, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a dit aujourd'hui qu'il souhaite le retour de Neymar pour le match du 6 mars. Le PSG sans Neymar devant le Real Madrid, ça donne moins de chance aux Parisiens?
Oui, ça donne moins de chance aux Parisiens, ça c'est certain, mais c'est surtout que ça pousse Paris à jouer son plan B. Son plan B qui consisterait, par exemple, au lieu d'affoler la rencontre dès le début du match, et jouer très prudent, parce que 1-2-0, et il lui faut un 2-0 pour passer, jouer très prudent, chercher donc à garder le ballon et à l'utiliser à bon escient, avoir un but et tenter dans le money time de trouver un deuxième but, c'est-à-dire ne pas encaisser bien sûr contre le Real Madrid. Donc l'absence de Neymar va aussi amener à Zidane à rester sur l'expectative en attendant cette rencontre.
Ce sera votre mot de fin. Merci beaucoup, Jules, et bonsoir à Libreville. Bonsoir, Amdine Sy à Dakar.
Kouba, et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Élisée, merci, au revoir.
Au revoir, Yacouba, l'information sportive en continu sur le site internet de la Radio Africa.
Amine Birouk au Maroc, bonsoir et bonne chance.
Bonsoir, Yacouba,
hein.
Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Merci à vous de nous avoir suivis. Sporama s'achève ainsi ici. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro sur VOA Afrique.